entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes actuellement au Collège Saint-Michel du groupe Les Arcades au centre-ville de Dijon. Et nous avons le plaisir d'être avec Madame Céline Grondin, professeure de français, et avec Monsieur Frédéric Gillot, professeur documentaliste. Et nous souhaitions nous entretenir avec eux de la question de la lecture, puisqu'ils sont au cœur de cette question dans leur métier de tous les jours et avec les élèves. Pourquoi c'est aussi important de permettre aux enfants d'accéder à la lecture ou de continuer à lire à cet âge, entre la 6e et la 3e?
La lecture occupe une place centrale au CDI. C'est notre raison d'être. Et puis moi, j'ai l'immense plaisir et le privilège au Collège Saint-Michel de pouvoir travailler avec des professeurs de français, dont Céline Grondin, Sophie Ronet, par exemple, Marielle Coé, enfin voilà, et Anne-Clotilde Liogier d'Arduy. Ce sont les professeurs de lettres avec qui j'ai le plaisir de travailler, parce qu'il y a un lien plutôt resserré entre CDI et puis les lettres, ce qui est tout à fait logique. Alors, ce que nous avons voulu faire, entre autres activités cette année, c'est demander aux élèves de la classe de 3MA, qui est la classe défense du Collège Saint-Michel, ça c'est autre chose. Néanmoins, c'est une classe très attachante et très participante dans bien des domaines. Et là, nous avons souhaité l'associer à une réflexion autour de la littérature et du monde. Et tout est parti en fait d'une question: en quoi la littérature peut-elle changer le monde? Et est-ce qu'elle le change vraiment, ou alors est-ce qu'elle peut le changer parfois? Oui, mais avec quelques limites. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et j'ai proposé à Céline, qui est ici là avec moi, de participer à ce projet. Je tiens précisément à te remercier, Céline, d'avoir participé à ce projet. Et je crois qu'on a encore mené une belle activité. Je crois qu'on a encore mené une belle activité avec les 3e, hein, n'est-ce pas, Céline?
Oui.
Oui.
Alors, comment on fait pour les amener à... Comment on amène la lecture dans votre programme?
Alors, ce que je fais en début d'année, c'est leur poser une question ouverte. En gros, c'est quel est l'intérêt de la lecture? Enfin, quels sont les intérêts de la lecture? Parce qu'il y en a plusieurs, ils ont un petit temps de réflexion. Et je les fais participer de manière informelle. Et ce qui ressort assez souvent, ça va être le plaisir de lecture, ça va être également la richesse du vocabulaire, l'ouverture sur le monde, la réflexion, les émotions. Et même pour ceux qui n'aiment pas lire, je remarque qu'à la toute fin, à la fin de l'année, ils arrivent en fait à trouver au moins un livre qui leur plaît. Alors je leur fais énormément emprunter au CDI au cours de l'année. Donc ils me font un compte-rendu de lecture, soit oral, soit écrit, tous les mois. Et je vois la différence entre le début et la fin. Pour certains d'entre eux, certains qui ne lisent pratiquement jamais, à la fin, en fait, vu qu'ils ont une certaine régularité, ils arrivent à produire quelque chose de beaucoup plus argumenté. Ils arrivent à avoir un avis. Il y a toujours au moins un ouvrage qui leur plaît. Donc finalement, ils trouvent quand même leur compte. Et ça permet aussi de leur dire que la lecture est accessible à tout le monde et que ce n'est pas juste réservé qu'à un petit groupe de personnes.
Si j'ai une vision élitiste un petit peu, la lecture se renvoie plutôt à quelque chose d'élitiste qui ne serait pas accessible, c'est ça que vous voulez dire?
Parfois oui, parce que certains élèves disent qu'ils ne lisent jamais alors qu'ils lisent des mangas et des BD. Mais en fait, il y a toujours cette critique, cet imaginaire collectif qui dit que les BD et les mangas sont de la sous-littérature, ce qui n'est pas vrai. Donc en fait, on essaie de valoriser tout ce qu'ils lisent. Et ce que je fais en fin de semaine, c'est un petit quart d'heure de lecture où ils apportent chacun un ouvrage de leur choix sur le thème qu'ils veulent. Et ils lisent pendant un petit quart d'heure. Déjà, ça leur permet de se poser après une longue semaine. Et finalement, il y a une sorte de rituel et de régularité dans la lecture. Ça devient une habitude.
Et il n'y a pas de sous-littérature. Mmh. Céline, tu as tout à fait raison de le dire. que l'on entre par la petite porte ou par la grande porte dans la littérature, l'essentiel est d'y entrer, au fond. C'est ça notre, j'allais dire, notre mission de tous les jours. Mais dans une autre classe et dans un autre contexte, j'ai le souvenir d'une élève de sixième qui devait participer à un projet lecture et qui est venue me voir à la fin de la première séance en pleurs en me disant « Monsieur, je n'arriverai jamais à lire, jamais je n'arriverai à tenir sur ce projet lecture ». Cette même fille, non seulement a lu tous les romans que nous proposions dans le cadre du projet à ce moment-là, et elle a adoré, parce que j'ai accompagné cette lecture d'une rencontre avec un auteur, elle a adoré la rencontre avec l'auteur et aujourd'hui elle me harcèle limite tout le temps pour me demander quand est-ce que cet auteur-là va sortir un nouveau roman. Donc quand on entend des choses comme ça et quand on voit des réactions comme ça, on se dit mais quelle belle victoire.
Oui.
Et c'est tout à fait ce que tu disais Céline par rapport au troisième. Tu as eu le talent de les faire venir à la lecture de ce que nous avons entendu aujourd'hui, de ce qui va être rapporté dans ce podcast. Effectivement, les élèves nous ont dit des choses très, 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 très intéressantes, non seulement sur la littérature et la lecture, mais aussi sur le monde et comment ils associent la littérature et le monde dans lequel nous vivons, mais le monde historique aussi. Programme d'histoire oblige, ils ont fait beaucoup référence à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, la magie, la lecture plutôt, c'est une forme de magie qui opère, mais quand on donne aussi envie aux élèves. Et c'est le cas de Céline qui donne envie à ses élèves d'aller plus loin.
J'ai une question justement selon vous, puisqu'on a posé la question à vos élèves. Mais pour vous, en quoi la littérature peut-elle changer le monde?
Ah, si tu veux répondre, oui. Céline.
Bien, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est un moyen d'expression, c'est une communication. En fait, l'auteur va communiquer son avis, son opinion, son expérience au plus grand nombre. Donc, c'est ce qui permet en fait de rendre justement cette communication accessible à tous. Ça permet justement des prises de conscience, de faire évoluer des mentalités. Et c'est important parce que dans certains pays, ce n'est pas toujours possible, notamment dans les pays en dictature. Cette communication, en fait, n'est même pas possible. Donc, il y a des populations entières qui ne peuvent même pas réfléchir par elles-mêmes. Donc, c'est important, en fait, de développer son esprit critique. Après, ce n'est pas une seule lecture qui va changer une société tout entière. Il faut être réaliste. Mais déjà, si ça permet de faire évoluer des mentalités à une certaine échelle, c'est déjà une victoire.
Oui, ils aident à comprendre aussi un petit peu le monde qui les entoure.
Oui.
En tout cas, ils ont parlé d'ouvrages difficiles. Ils ont parlé de Primo Levi, ils ont parlé de Baudelaire, ils ont parlé d'Anne Frank. Enfin, c'était assez impressionnant, enfin, je veux dire.
Là, pour moi, la littérature, elle influence sur le monde parce qu'elle éclaire les esprits. Mais si on regarde comme sur un plan historique, elle n'empêche pas cette célèbre formule aussi qui dit que l'histoire est malheureusement un perpétuel recommencement et que d'avoir lu 1984 de George Orwell ou d'autres livres, où je pense à La bonne couleur de Yael Hassan qui dépeint des univers totalitaires, etc. Ça n'empêche pas que les dictatures fassent surface dans toutes les périodes de l'histoire, voilà. Donc c'est un éclairage. Si j'osais une comparaison, alors comparaison n'est pas raison, mais je pense à la Coupe du Monde de football de 98, ça ne nous rajeunit pas. Mais on pensait que cet élan derrière la victoire de l'équipe de France de football allait complètement changer la société, que tout le monde allait s'aimer, se partager, etc. Bon, on s'est rendu compte au final qu'il n'en était pas grand-chose de tout ça. En tout cas, voilà, je veux pas avoir un regard purement pessimiste, mais la littérature, elle éclaire les esprits. Ça, c'est vrai. Et quand on pense d'ailleurs au XVIIIe siècle, aux philosophes des Lumières, etc., la littérature, la pensée, la philosophie ont permis à certaines personnes qui n'avaient pas accès à l'époque à la culture et à la lecture d'ouvrir les yeux sur le monde. Oui, voilà.
Et à chaque fois, en fait, À chaque fois que je pose une question aux élèves sur l'importance de la lecture et aussi de l'éducation, mais en fait, ce qui va revenir, c'est l'autonomie, l'esprit critique. Je leur ai dit, par exemple, imaginez que vous êtes une fille et qu'on vous dit toute votre vie que vous êtes là juste pour vous marier et faire le ménage, que vous n'avez pas le droit d'ouvrir de compte bancaire parce que c'est dans l'ordre des choses. Si personne ne vous dit le contraire, vous risquez d'y croire. Mmh. Et en fait, les schémas se répètent à l'infini. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément valoriser l'esprit critique et l'ouverture sur le monde.
Et oui, tout à fait, Céline. Et la littérature, elle permet cela justement aussi. Elle permet de prendre du recul oui. par rapport aux choses. Ce que l'image animée ne permet pas. Ce qu'un journal télévisé ne permet pas. Parce que nous sommes passifs devant l'information, on la prend, on la digère, on passe à une autre, etc. Alors que la lecture, c'est comme la presse. La littérature, c'est comme la presse, en fait, ça permet de prendre du recul sur les choses, sur le monde.
Et vu que c'est un processus long, en fait, il y a un temps de réflexion qui se fait, et donc ça marque davantage les esprits.
Et ça permet de développer l'esprit critique.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez des exemples de livres qui sont au programme? Je ne sais pas comment ça marche, est-ce qu'il y a un programme, pas un programme? Et dans ces livres, qu'est-ce qui, pour vous, a été important à fonctionner, aussi bien pour comprendre le monde, mais aussi pour se comprendre un peu soi? Parce qu'il y a aussi la question... La littérature, ça permet aussi de se questionner, de se comprendre, ses émouvoir des émotions, par exemple, tout à l'heure.
Bah justement, ce qui est intéressant quand on entre dans un texte, c'est voir les impressions, les émotions qui nous traversent lors de la lecture. Parce que généralement, les premières impressions sont très souvent les bonnes. Et finalement, on se rend compte que parfois, ce qu'on lit, ça peut être... de temps en temps, le miroir de nous-mêmes, quand on s'identifie au personnage, quand on s'identifie aussi... à un auteur qui fait son autobiographie, par exemple. Et aussi, on est ouvert à l'autre, parce que ce qu'on lit, en fait, c'est l'ouvrage de quelqu'un d'autre. On se l'approprie, c'est vrai, mais ça permet, en fait, de créer une sorte de relation entre soi et l'autre, finalement. Donc, ça permet aussi de faire évoluer la réflexion, parce qu'on est confronté à une réflexion qui est différente de la nôtre.
C'est ça.
Ouais.
Et là, par exemple, plusieurs élèves ont évoqué un livre concernant, ou écrit peut-être pareil, je ne sais pas, Malala.
Oui.
Qui semblait les avoir beaucoup intéressés.
Oui, ils ont travaillé dessus pendant toute une séquence.
D'accord. En tout cas, ça les a marqués autour de la question de la liberté, oui. Et justement du droit à l'éducation, enfin, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir apprendre, enfin, ça les a beaucoup...
Pour les filles, hein.
Beaucoup marqués.
Pour les filles, surtout, hein. C'est ça le sujet.
Oui, parce que dans la plupart des pays en voie de développement, c'est très compliqué pour les filles d'avoir accès à l'éducation.
Voilà.
Des fois, c'est même difficile pour tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Mais en fait, le combat de Malala, il permet justement aux filles de pouvoir, elles aussi, choisir leur propre destinée et qu'on ne leur impose plus des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Déjà, leur permettre d'être éduquées, ça leur permet aussi d'entrer dans la société, de choisir leur propre voie. Et ça évite aussi des tragédies comme des mariages précoces, par exemple.
Mm-hmm. Qui reviennent en force, d'ailleurs, qui ont toujours existé un peu, mais qui reviennent même...
Oui.
En force dans beaucoup de pays aujourd'hui.
Malheureusement.
Et puis bon, mais c'est vrai, dans notre société occidentale, on a des petits bobos, on a des petits malheurs, on a des petits soucis, ceci qui ne va pas, l'inflation qui galope, etc. Mais quand on est confronté à de telles lectures, on se rend compte aussi que dans d'autres sociétés, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille et c'est loin d'être tout rose, bien au contraire. Donc ça peut aussi permettre de relativiser sur notre propre vie et notre propre existence. Même si, pour moi, je pense que le combat des filles, des femmes, aujourd'hui, reste primordial pour continuer à se faire une place dans la société. Tout n'est pas encore gagné.
Tout n'est pas gagné, peut-être d'ailleurs pour tout le monde.
Mais c'est
une autre question. Mais alors, ils ont parlé aussi d'un auteur dont j'ai entendu parler, mais que je ne connaissais pas en termes de lecture, c'est M. Vittori. C'est un livre qui a été écrit bien après la guerre, mais qui parle de la guerre. Non, ça vous dit rien. Jean-Marc Vittorien, donc comme ça.
Ah, je ne connais pas cet auteur.
Ça ne me dit rien non plus.
Il y a un garçon qui a parlé de ça. Il y a Dena qui a cité Victor Hugo aussi.
Les Misérables.
Les Misérables, oui.
Là aussi.
Yvan Franck, voilà, qu'est-ce qu'il y en a eu d'autres
Nous, ils ont parlé de Baudelaire.
Primo
Levi, Baudelaire.
Un des livres, alors, je ne sais pas lequel vous avez pris sur les ondeurs commando.
Anne Frank.
C'est celui de. Vous vous souvenez de l'auteur?
Il y a même un jeune homme qui a parlé de Karl Marx.
Oui, il y a un élève qui a parlé de Karl Marx,
ah bon
Arthur, oui.
Ouais.
Elle parlait du Capital.
Oui, c'est vrai.
C'est très étonnant en troisième, d'ailleurs.
C'est bien, c'était intéressant.
Et c'est ça qui est bien avec les adolescents, c'est que quand on ne les prend pas de haut, bah, ils peuvent dire des choses vraiment étonnantes.
C'est ça.
Oui.
Parce qu'il y a toujours cet imaginaire collectif qui m'insupporte, qui est de rabaisser systématiquement des jeunes, des enfants, en fait, en considérant qu'ils sont futiles, n'ont pas de réflexion, ils ne respectent personne, c'est etc. Alors que ceux qui disent ça, c'est les premiers, en fait, à ne pas être dans le respect.
Ah ouais,
et finalement, quand on s'intéresse un tant soit peu aux enfants, ils peuvent nous dire des choses vraiment intéressantes.
En écoutant ce que... Sans se placer en position de supériorité.
D'ailleurs, pour mémoire, il n'y a pas si longtemps, les enfants des puissants étaient éduqués par des gens qui venaient chez eux, en maths, en astronomie, en sciences, en littérature, en religion. Et à 10, 11 ans, on peut avoir le même niveau intellectuel quand on en a 20, 30 ou 40.
Hein. Bien sûr.
Et souvent, beaucoup de génies étaient très, très précoces. Donc, on sent effectivement l'intelligence.
Mais à l'inverse, on peut aussi commencer plus tard et puis s'instruire plus tard.
Voilà.
Aussi.
Moi, j'ai déjà vu au CDI des élèves de 5e venir me demander d'emprunter des romans de Victor Hugo. Hein.
Alors, peut-être simplement un mot sur les autres, parce que là, on a parlé de livres classiques, on va dire, au niveau de la facture, de l'écriture. Est-ce que la bande dessinée, les mangas font partie aussi de l'enseignement et peuvent être utilisés dans votre travail?
Ah oui, bien sûr. Oui. C'est intéressant de travailler sur l'image. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'image et le texte se répondent. Et d'un point de vue de la créativité, c'est vraiment intéressant parce que les élèves peuvent se dire aussi s'ils ont imaginé les personnages de telle ou telle manière. Et cela crée aussi... Enfin, il y a à la fois de l'analyse de texte et l'analyse de l'image, finalement.
C'est bien que ça ait changé la vision de la BD.
Et que vous pouvez faire ça en troisième, par exemple.
Oui, par exemple, si on travaille par exemple, sur le thème de la guerre, je me rappelle leur avoir donné un extrait de « Putain de guerre » de Tardi.
D'accord.
Il parle vraiment explicitement des horreurs de la guerre. Mmh. Et en fait, il y avait un travail très intéressant sur le langage des soldats avec l'argot. Hein, et aussi un travail sur l'image, sur le dessin, sur le caractère percutant, les choix artistiques. Hein, voilà.